À l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
La tête au carré.
Toute ma vie, j'ai couru envers un idéal qui était de comprendre la science. Je me suis bien amusé.
La tête au carré. Carré. Mathieu Bidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
Bonjour à tous. Lorsque la sociologie s'occupe des prénoms, eh bien c'est le thème de notre tête au carré pour démarrer cette nouvelle semaine scientifique. Et Baptiste Coulmont, vous êtes notre invité pour en discuter. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à Paris 8 et vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Sociologie des prénoms » qui est publié aux éditions de La Découverte dans la collection Repères. Alors vous allez nous expliquer comment vous avez d'abord été amené à vous intéresser à cette question des prénoms, ce que la sociologie a à nous en dire. Alors il faut préciser peut-être tout de suite pour les auditeurs que votre travail n'est pas un guide des prénoms hein, qui consisterait à étudier des prénoms individuellement.
C'est ça.
Enfin, on n'est pas du tout.
Je n'en propose aucun.
Voilà. Par contre, vous allez nous raconter un petit peu le contexte d'abord de la création des prénoms, comment on prénomme son enfant, comment les prénoms sont utilisés et comment justement la sociologie elle-même a recours aux prénoms. Et puis nous découvrirons au cours de l'émission le reportage qu'Axel Villard est allé enregistrer à la maternité Robert Debré en compagnie de l'officier d'état civil qui, comme tous les jours, fait sa tournée auprès des parents des nouveau-nés pour recueillir leur déclaration de naissance. Les auditeurs nous rejoignent en direct avec les questions, les messages sur le site de la tête au carré sur franceinter.com. Et Baptiste Coulmont, donc on se retrouve dans quelques instants. Luc Biec, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On vous retrouve comme tous les lundis dans la dernière partie de l'émission pour votre chronique de santé solidaire. Quel en sera le sujet tout à l'heure, Luc ?
Je vais vous parler des problèmes d'approvisionnement de médicaments et ça se passe en France.
Ce sera aux alentours de 14h50. Voilà donc pour le sommaire. Violaine Ballet est aux commandes. Le dossier a été préparé par Chantal Lemontagnier et Lucie Sarfati.
Revue de presse dans la tête au carré.
La ruée sur le pétrole du pôle Nord, c'est à la une de la Tribune aujourd'hui. Sur une double page, Olivier Hensgen explique que les plus grandes compagnies pétrolières du monde se ruent actuellement sur l'Arctique, un territoire prometteur et encore largement sous-exploré. L'Institut d'études géologiques américain estime que la zone recèlerait 90 milliards de barils de pétrole récupérables et 300 milliards de barils de gaz. Mais ces projets d'exploitation ne sont pas du goût des défenseurs de l'environnement qui crient à l'hérésie, rappelant que l'Arctique est un sanctuaire aux écosystèmes fragiles déjà altérés par le réchauffement climatique. Selon WWF, l'Arctique représente le plus haut niveau de sensibilité environnementale et la plus faible possibilité de nettoyage après un accident. À titre d'exemple, la Tribune revient sur deux incidents récents qui auraient pu mal tourner en Norvège. En mai 2010, l'évacuation d'une plateforme du pétrolier national Statoil aurait pu provoquer une éruption sous-marine ou une explosion. Et plus récemment, une fuite d'hydrocarbures a été évitée de justesse sur une plateforme de Shell. Après enquête, l'autorité de sécurité du pétrole norvégien a révélé des déficiences sérieuses et plusieurs entorses au respect de la réglementation chez les deux compagnies. Il n'existait jusqu'ici pas de règles contraignantes communes aux 8 pays de la zone arctique. Aujourd'hui, réunis au sein d'un conseil de l'Arctique, ces pays prennent progressivement des mesures concernant le trafic maritime, le tourisme ou l'exploitation des ressources géologiques. Le premier accord de l'instance a été signé début mai et porte sur les secours en mer. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, Hélène Brie alerte sur les dangers du régime Ducan. Cette diète à la mode est aujourd'hui dans le collimateur des autorités sanitaires françaises. Tout d'abord parce que ce régime qui propose de perdre 10 à 15 kilos en quelques semaines, avec de la viande grillée, du saumon fumé et du fromage blanc, serait inefficace. C'est ce que montre une étude que le Parisien rend publique en avant-première et qui sera publiée en juin dans la revue médicale Obésité. Cette enquête menée auprès de 5000 adeptes du régime Ducan est la première à analyser l'effet du régime à court, moyen et long terme. Le premier constat, c'est que moins d'un an après avoir entamé ce régime, 35% des personnes ont repris le poids perdu et que 3 ans après, ce chiffre monte à 80%. Mais les résultats de ce régime ne sont pas seulement incertains en termes de perte de poids. Interrogé par Claire Chantry, l'endocrinologue Boris Hansel explique que cette diète peut engendrer de vrais soucis de santé. Les médecins suspectent en effet la méthode Ducan d'être à l'origine d'une augmentation des maladies cardiovasculaires, de maladies du foie, d'apnée du sommeil et de complications l'insuffisance rénale. Enfin, ce régime pourrait s'avérer dangereux pour les femmes enceintes, auxquelles Pierre Ducamp prescrit également des restrictions alimentaires dès le début de la grossesse. C'est notamment pour mettre en garde les futures mamans sur les risques qu'elles font courir à leur fœtus en suivant un régime minceur que l'autorité de sécurité alimentaire française a donc décidé de lancer ce cri d'alarme. Les médecins réclament une vraie enquête de santé publique sur le sujet. Et puis enfin, des nouvelles de la Lune qui renferment, apprend-on, 100 fois plus d'eau qu'on ne le pensait jusqu'ici. C'est ce que révélait Marc Ménessier dans le Figaro de ce week-end, à l'appui d'une étude parue jeudi sur le site en ligne de la revue Science. Bien qu'elle semble à première vue aride et désertique, eh bien des découvertes se sont succédées depuis 2 ans, montrant que la Lune contient de grandes quantités d'eau gelée, que ce soit dans les premiers mètres du sol lunaire ou au fond de petits cratères situés près des pôles. Les chercheurs ont retrouvé des molécules d'eau dans du magma lunaire prisonnier depuis plusieurs milliards d'années à l'intérieur de petites billes de cristal volcanique ramassées par les astronautes d'Apollo 13, la dernière mission de la NASA sur la Lune en décembre 72. Et cette découverte étonnante conforte la théorie selon laquelle la Terre et la Lune ont une origine commune, note le Figaro, mais elle oblige également à se réinterroger sur la naissance de notre satellite. Le scénario qui veut que la Lune se soit formée suite à la collision entre un énorme astéroïde et la Terre s'accorde mal avec l'abondance d'eau retrouvée à l'intérieur de la Lune. Sous l'effet des hautes températures générées par la collision, cette eau aurait en effet dû se volatiliser dans l'espace. Une affaire à suivre.
La tête au carré.
Cafraise avec Zaza Fournier sur France Inter.
La tête au carré.
Est-ce que ça peut se réparer ?
Eh bien, je répondrai à Brigitte que on ne peut en écarter l'hypothèse.
Sur France Inter.
Un ouvrage, Sociologie des prénoms et son auteur, donc aujourd'hui dans la tête au carré, Baptiste Coulmont, vos messages sur franceinter.com. Alors Baptiste Coulmont, en quoi justement les prénoms peuvent intéresser un sociologue? C'est la première question qu'on a envie de vous poser quand on découvre un tel ouvrage.
Eh bien, ils intéressent les sociologues, et en France particulièrement, depuis les travaux de Philippe Bénard dans les années 70 et 80, où ce sociologue déclarait que le prénom, c'était un objet dont la consommation était obligatoire, mais qui n'engendrait aucun coût. Et donc, qui permettait d'étudier la mode sans la variation causée par le coût et le revenu des choses. Donc, c'est la mode sur un objet gratuit.
Et on va voir avec vous, justement, qui a rendu cet objet obligatoire, puisque vous revenez sur l'histoire des prénoms. Alors, qu'est-ce qui vous a guidé, vous, personnellement, sur la piste de la prénomination?
C'est assez ancien et c'est depuis que j'ai été recruté à l'université Paris 8 où je m'en sers comme exemple pédagogique, car c'est un exemple qui touche tous les étudiants et qui leur permet de rentrer assez facilement dans des raisonnements sociologiques, parce que tout le monde s'aperçoit bien que le prénom que l'on porte indique sinon sa classe d'âge, peut-être son ethnicité, son origine nationale ou sa classe sociale.
Alors quels sont les thèmes justement qu'on étudie au sein de la sociologie autour des prénoms et ceux que vous développez en l'occurrence dans ces livres ?
Principalement, ça permet d'étudier la mode. Ça permet d'avoir des exemples où la mode n'est pas liée par le revenu des personnes. Mais ça permet aussi, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, d'avoir des informations, par exemple, sur la structure anthropologique de la famille, si on s'intéresse au second prénom. Ça permet d'avoir des informations sur plus historiques, sur la manière dont le prénom, comme outil d'identification, est devenu propre à l'identité personnelle des individus.
Avec une période charnière, on le verra, qui est la Révolution française. Alors, juste un petit peu de vocabulaire, puisque vous le proposez justement dans votre ouvrage. Vous rappelez que l'onomastique est la science des noms propres. On peut le rappeler ou l'apprendre aujourd'hui dans l'émission. Et alors, on dit comment un onomasticon, c'est ça ?
Qui est le dictionnaire, en quelque sorte, des noms propres.
Voilà, dictionnaire ou catalogue des noms propres. Voilà, onomasticon. Moi, je ne connaissais pas ce nom-là, donc je l'ai appris grâce à vous. Alors, il faut préciser que c'est une sociologie française, des prénoms, parce que j'imagine que l'histoire et les usages de ces prénoms changent beaucoup d'une culture à l'autre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir, d'étudier ce qui se passe ailleurs?
Oui, alors on a des informations historiques sur les pays qui ont un état civil assez ancien, comme la Hollande ou les pays scandinaves. Et après, il y a des pays dans lesquels les sociologues se sont peu intéressés aux prénoms, comme par exemple en Italie, un peu moins en Grande-Bretagne. Des pays comme les États-Unis où les sociologues se sont beaucoup aussi intéressés aux prénoms, et notamment aux prénoms des différentes générations liées à la migration. Il y a des pays pour lesquels on aimerait en savoir plus, des pays proches, comme par exemple la Suisse, qui est un pays avec certes fortement unifié, mais avec des origines et des langues différentes.
Et là, on peut faire beaucoup de parallèles avec les pays étrangers. Au contraire, il y a énormément de divergences du point de vue du sociologue sur l'étude de ces prénoms, que ce soit en France donc, ou ailleurs.
La France serait peut-être un pays beaucoup plus soumis à la mode et à des engouements liés à la mode que d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie ou même la Grande-Bretagne, où des prénoms comme Harry ou John sont plus...
S'inscrivent dans la langue durée.
Oui, dans la langue durée.
Oui, effectivement. Avec des modes qui sont très changeantes. On va voir, ça, le rythme s'est beaucoup accéléré aussi en France. Alors, vous commencez ce livre, Baptiste Coulmont, avec un peu d'histoire, en expliquant donc comment les prénoms sont devenus une catégorie juridique. Alors, à quel moment, justement, est-ce que c'est né?
Les gens, depuis longtemps, ont eu un nom de famille, un patronyme, et un petit nom, ou ce qu'on appelait un nom de baptême. Mais quand l'État a laïcisé l'État civil au moment de la Révolution française, ce nom de baptême a dû prendre un autre nom, et les juristes l'ont appelé le prénom. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où les personnes, les citoyens français, les personnes qui sont sur le territoire, ont un nom et un prénom. Auparavant, il y a certes des patronymes, il y a certes des noms de baptême que l'on retrouve associés à certaines personnes, des évolutions, mais tant que le terme de prénom n'est pas utilisé, je préfère
de le laisser de côté.
Ouais, donc c'était véritablement pour assurer une existence civile aux individus. Hein,
voilà,
donc,
principalement le nom de famille, la fixité du nom de famille a été un des moyens pour l'État d'assurer l'identification des individus, mais le prénom aussi de plus en plus, et surtout au moment de la Révolution au XIXe siècle, autant il était possible... avant les années 1950, de changer de nom de famille, il n'était pas possible de changer de prénom. Le prénom était immuable juridiquement.
Ouais.
Donc il servait à l'État à assurer l'identité des personnes, ce qui n'empêchait pas que très souvent les gens utilisaient plusieurs prénoms, avaient un nom de baptême différent, utilisaient le second ou le troisième prénom dans la vie courante, etc.
Et ça, c'était rapide, du jour au lendemain, finalement, le prénom a remplacé le nom de baptême, ou au contraire,
Ça a été lent, il a fallu un gros travail, et les travaux d'un historien du Paquet montrent qu'encore au milieu du 19e siècle, si on compare les registres de baptême, les registres du recensement et d'autres documents administratifs, on s'aperçoit que les gens ont des pratiques différentes et déclarent des prénoms différents à différents états de leur vie.
Mmh.
Et donc le fait que le prénom devienne pour les personnes le symbole de leur identité profonde, ça c'est assez récent, c'est vraiment le travail du XXe siècle.
Alors cette invention du prénom, alors certes il y a cette période charnière de la Révolution, mais on peut aller bien en amont, dès le Moyen-Âge d'ailleurs. Mmh. Alors comment est-ce qu'on nommait les gens précisément à partir du Moyen-Âge, ou dans cette période-là en tout cas?
Dans le monde romain, il y avait un système avec plusieurs noms. Il y avait le praenomen que les révolutionnaires ont repris en appelant prénom. Mais au moment du Moyen-Âge, il y avait un nom unique. Et ce qui s'est passé, c'est la combinaison d'un nom unique dont on peut hériter et d'un nom de personne qui s'associait à ce nom dont on héritait. Et donc, s'est mis en place, au Moyen-Âge et après, ce binôme du nom de famille, patronyme, et du nom personnel, qui est devenu le nom de baptême et le prénom. Et tout un travail s'est mis en place autour des guerres de religion et de la contre-réforme pour que l'Église catholique transforme le baptême vraiment en cérémonie de nomination, avec l'invocation d'un saint patron, qui, par l'intermédiaire du parrain, s'inscrit dans la personne par ce nom de baptême.
Ouais. Alors on va voir justement que là aussi à la Révolution, évidemment, la christianisation des prénoms a beaucoup souffert, hein, puisque c'était le rôle des curés avant que d'assurer que l'individu portait un prénom saint, et puis ensuite évidemment les choses ont changé. Pour rester un petit peu dans cette période du Moyen-Âge et pour arriver jusqu'à nous, est-ce que le prénom dépend aussi énormément du groupe social, hein, enfin la façon de prénommer en tout cas les gens, de les nommer tout simplement même?
Alors on a sur des périodes, on va dire, antérieures à la Révolution, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas vraiment historien, mais on a des personnes qui, par exemple, il y a un texte de Montaigne qui repère une grande concentration de Guillaume parmi les chevaliers, et ça au XVIe siècle. Donc l'idée que les prénoms sont associés à des groupes de personnes, elle est assez ancienne, mais il a fallu des outils statistiques et des ordinateurs pour traiter ces très grosses masses de données.
Ouais.
Mais on en a, par notre simple vie sociale, une sorte d'intuition.
Ouais. Mais en tout cas, vous montrez que dans les groupes, ou dans les petits villages isolés par exemple, un sobriquet suffit pour nommer quelqu'un.
Oui. Ça suffit pour nommer quelqu'un, indépendamment de son état civil. On sait tous, dans un village de 200 ou 300 habitants, qui est le gros Jean ou le petit Pierre.
Jean le Cuistot, Jean fils de Louis, etc.
Dans les espaces d'interconnaissance encore aujourd'hui, que ce soit dans une salle de classe, des collectifs de travail, des surnoms, des sobriquets peuvent servir à identifier très facilement les personnes. Simplement, l'État et les institutions extérieures n'arrivent pas à savoir qui est gros Jean ou petit Jean.
Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent justement sur la mode des prénoms. Mmh. On peut déjà y répondre, hein. On va le redévelopper tout à l'heure. Anna nous dit ceci, est-ce une impression de ma part ou y a-t-il une vague bobo des prénoms à consonance début de siècle, Marcel, Augustine, Georges, Zélie? Qu'en est-il des classes sociales plus défavorisées?
Donc les sociologues sur lesquels je m'appuie, Bénard et Desplanques, avaient remarqué qu'il y a un cycle centenaire des prénoms, 120, 130 ans. Donc si on prend les prénoms dans les années 50, il y avait un retour aussi de prénoms
du 19e.
Voilà.
Ou...
Là, aujourd'hui, en 2010, on a un retour à des prénoms dont les porteurs sont quasiment tous morts, Émile, Louis ou d'autres.
Donc là, il y a des cycles aussi.
Il y a des cycles, un cycle centenaire. En quelque sorte, les personnes attendent la mort des porteurs de certains prénoms pour revenir, puisque ces prénoms ne sont plus associés dans l'esprit des personnes à leurs grands-parents, mais peut-être à leurs arrière-grands-parents qu'ils n'ont pas connus.
Quelle que soit la catégorie sociale, là aussi, ou pas, pour répondre à la question d'Anna.
Alors, les jeux entre catégories sociales sont complexes. Il n'est pas impossible que des prénoms reviennent aussi dans des catégories sociales populaires, même si on repère plutôt, ce que l'on repère grandement, c'est l'utilisation de prénoms qu'on qualifierait de prénoms anglo-saxons, comme Brandon, par exemple.
Oui, et ça, effectivement, on a vu fleurir ces prénoms pas mal dans notre pays depuis quelques années. Étienne est à Paris. Comment votre invité explique-t-il que de vieux prénoms démodés à une époque encore assez proche reviennent à la mode aujourd'hui, tels Gaston ou Marcel? Donc ça, c'est un complément, justement, voilà, à la question précédente.
C'est qu'on attend, on semble attendre, aujourd'hui en France, la mort des porteurs de prénoms pour faire revivre ces prénoms. Mais si on pourrait prendre des prénoms un peu plus récents comme Simone ou Georgette, et ces prénoms-là ne sont pas encore revenus à la mode. Il n'est pas impossible que dans une vingtaine d'années, ils reviennent à la mode. Et que nos enfants, à moi qui ai un petit enfant, que mon enfant appelle son fils, sa fille Raymonde, par exemple.
Ouais. Alors 1792, donc les révolutionnaires sont partisans d'une liberté de choix, évidemment, on en voit tout valdinguer, et là on choisit véritablement les prénoms, et on en invente aussi à l'époque, pour bien marquer césure.
Oui, alors des syntagmes sont utilisés comme prénoms, c'est parfois très fortement lié à la Révolution, donc le nom des mois révolutionnaires, mais aussi des choses et des objets. Certains pouvaient être liés à des petits saints locaux, étaient peu utilisés et se mettent à être utilisés au moment de la Révolution française, qui est une période pendant quelques mois de bouleversement très inégal suivant les régions, les villes, et qui a fortement marqué les esprits, puisque des lois ont été mises en place au début du 19e siècle pour permettre à ces personnes mal nommées de retrouver un prénom plus en phase avec le retour retour conservateur napoléonien, on va dire.
On voit apparaître Marin, par exemple, Brutus, au moment de la Révolution, mais ça va durer très peu de temps.
Ça dure très peu de temps, il y a un retour à l'ordre très rapide, et aussi le fait que certains curés vont se remettre à être les agents d'état civil, parce que beaucoup de personnes étaient illettrées, il n'y avait que certaines personnes qui étaient capables de faire cela. Mmh. Et puis c'est lié à une liberté de choix, mais une liberté de choix liée à une instabilité révolutionnaire.
Est-ce que le prénom Louis a beaucoup souffert de la Révolution, justement, ce prénom royal?
Louis,
on peut imaginer en tout cas qu'il était moins choisi.
C'était un moment où quand même les 10 premiers prénoms pouvaient servir à nommer une grande partie de la population. Donc Louis a peut-être c'était 25% des personnes et que c'est passé à 20% des bébés qui étaient nommés Louis. Donc, ça peut être assez difficile de savoir.
Valérie nous écrit d'Angers. Mes filles âgées de 13 et 1 an se prénomment Tinuvielle et Automne. Assez rare, il est vrai, mais ça sonne comme de vrais poèmes. Et je n'ai rencontré, dit Valérie, aucun problème à l'état civil. Et lorsqu'on me demande les prénoms de mes filles, les gens trouvent ça très joli. Alors, qu'en est-il justement du choix du prénom aujourd'hui et des interdits en particulier?
Aujourd'hui, le choix est libre. A priori, et si l'officier d'état civil pense qu'il y a un problème, il peut saisir le procureur de la République qui, s'il estime qu'il y a aussi un problème, demander à un juge de se prononcer. Il y a très peu de cas.
Qu'est-ce qui est refusé en particulier? Les onomatopées, je crois, c'est ça?
Les onomatopées, les personnages déconsidérés de l'histoire, parfois certains accents qui n'existeraient pas en français, comme des accents graves ou aigus sur le i, mais les parents ont parfois des armes sociales suffisantes et des avocats qui leur permettent d'obtenir gain de cause.
Ouais. Vous évoquez le destin du prénom Adolphe en France. Alors c'est un prénom qui était relativement répandu au tout début du XXe siècle et qui, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, disparaît totalement. Est-ce qu'il est interdit aujourd'hui, Adolphe?
Non, il n'est pas interdit. Il y a parfois 3 personnes qui sont nommées Adolphe. Il peut y avoir certaines familles où sur plusieurs générations, les personnes ont pu être appelées Adolphe. Mais c'est un prénom qui est toujours qui est encore dans un purgatoire.
Oui, alors effectivement, vous montrez, il y a une courbe qui est très parlante sur le destin de ce prénom. Donc
qui avait commencé à chuter déjà avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne réapparaît pas.
Oui. Et Rodolphe a pris le pas sur Adolphe, d'une façon de pouvoir quand même nommer avec cette consonance
qui est assez rare. Il y a très peu de prénoms qui terminent en OLF. Mais Rodolphe a une carrière un peu plus récente quand même. C'était pas un prénom en vogue au début du XXe siècle.
Baptiste Coulmont, vous restez avec nous et puis dans un instant on ira à la maternité Robert Debré pour voir justement quelles sont les histoires de prénoms et pourquoi on choisit tel ou tel prénom autour des enfants. Ce sera un reportage d'Axel Villa juste après The Bell Rays et Sun Comes Down dans la tête au carré. Vos messages franceinter.com. Belle Raise dans cette tête au carré avec la programmation musicale de l'émission assurée par Jean-Michel Montu, Baptiste Coulmont, notre invité pour parler donc de cette sociologie des prénoms aux éditions de la Découverte. Deux messages avant de partir à la maternité. Robert Debré, Vincent à Angers, demande s'il y a une explication quelconque au fait que des gens aient pour nom de famille un prénom.
Alors, Les consignes qui étaient données aux officiers d'état civil pour nommer les bébés abandonnés étaient de leur donner deux prénoms, ce qui ne signifie pas, bien sûr, que toutes les personnes qui aient un prénom comme nom de famille...
Et une personne et... abandonnée dans leur famille.
Voilà. Ouais.
Mais c'est une des raisons, en tous les cas.
Peut-être pas à ce que certaines personnes soient nommées, aient un nom de famille qui soit un prénom, mm-hmm. mais il y avait des... Quand on n'avait pas le patronyme, on proposait deux prénoms.
Jean-Luc demande, y a-t-il eu un ou des principes qui aient régi l'usage d'un second, voire d'un troisième prénom ? Chez la famille de ma mère, d'origine flamande, tous les garçons avaient Cornelius comme troisième prénom.
Il paraît aussi qu'en Belgique, je ne sais plus si c'est le prénom Baudouin est donné à tous les sixièmes enfants en deuxième prénom. Je ne sais pas si c'est
véridique. Au roi,
Aujourd'hui, ce qu'on voit en France, c'est que pour une partie des personnes, ce sont des prénoms qu'on trouve dans la famille, mm-hmm. les second et troisième prénoms, et parfois ce sont les prénoms qui n'ont pas été choisis comme premier prénom. Mais il y a un intérêt pour l'État à ce que les personnes aient plusieurs prénoms pour réussir à identifier des éventuels homonymes oui. au niveau du premier prénom.
Alors vous allez voir justement dans le reportage que nous allons entendre, il y a une maman qui, elle, a décidé de couper avec cette tradition de donner toujours le même second ou troisième prénom aux filles de la famille. Axel Villard donc, a rencontré l'officier d'état civil, qui est la personne en France chargée d'enregistrer les actes de naissance et de décès. Donc c'est un métier en contact permanent avec l'évolution des prénoms donnés aux nouveau-nés. Et il faut savoir que la plupart des officiers d'état civil travaillent dans des bureaux et en mairie. Et quelques-uns donc effectuent une tournée journalière directement auprès des mamans. Et toutes les grosses maternités en général de Paris, en tout cas, ont leur propre officier. Axel Villard a suivi Martine Carlos à l'hôpital Robert Debré pour tenter de comprendre auprès des parents comment naissent les prénoms.
Chambre 80, on va aller voir Madame Oneida.
Bonjour, je suis
Je viens pour la déclaration de naissance. Est-ce que c'est votre premier enfant, madame ?
Oui, c'est moi.
Est-ce que vous souhaitez mettre le nom de famille ou ça sera que le nom du papa ?
Non, je laisse avec le nom du papa.
Le nom du papa ?
Oui.
D'accord. Les prénoms, s'il vous plaît.
Myriam, M-E-R-Y-A-M.
Comment avez-vous choisi ce prénom ?
J'ai une tante qui m'a élevée, malgré j'ai mes parents, mais elle m'aimait beaucoup. Elle s'est décédée juste avant mon mariage. Donc j'ai décidé, si j'aurais une fille, je l'appellerais avec son prénom. Et heureusement, j'ai une fille.
Comment vous appelez-vous et comment s'appelle le papa ?
Je m'appelle Oneida. Et le papa, c'est Mourad.
Et Mourad a tout de suite été d'accord pour ce prénom ?
Oh, oui. C'est mon choix, donc ça lui plaît, automatiquement.
Chambre 95. Donc, c'est Madame Hélène.
Comment s'est passé le choix du prénom Mathilde ?
On avait déjà mis ce prénom dans la sélection de prénoms qu'on avait faite pour la première. On avait regardé un peu les sites internet, écouté un peu. On voulait pas que ce soit un prénom trop fréquent, et puis qui nous plaise quand même, bien sûr.
Comment s'appelle votre première ?
Louise.
En fait, dans ma famille, tout le monde s'appelle pareil. Mes sœurs, mes tantes, mes cousines, on a toutes les mêmes prénoms. Donc, au contraire, je voulais un prénom qui n'était pas du tout donné encore dans la famille, ni qui représentait déjà quelque chose pour moi, une amie proche ou... Le but, c'était de trouver que Mathilde, ce soit uniquement Mathilde et pas une autre Mathilde pour nous. Quoi.
Et donc, le deuxième prénom que vous avez donné à Mathilde, c'est quoi ?
Alice. En fait, c'est notre fille qui voulait appeler sa petite sœur Alice. On s'est dit que pourquoi pas lui donner ce prénom, deuxième prénom.
Donc, c'est votre premier enfant, tous les deux ? Notre deuxième enfant, d'accord.
Pas tous les deux, c'est notre premier.
Mmh. Alors, est-ce que vous souhaitez mettre les deux noms de famille ou ça sera que le nom du papa ?
Le nom du papa, d'accord.
Alors, ça y est, tous les papiers sont signés.
Oui.
Expliquez-moi alors comment vous avez choisi ces deux prénoms, Léane et Eva.
En fait, on voulait des prénoms avec un A. Alors, Eva, parce que c'était le premier prénom au départ que l'on avait choisi. Et en fait, on voulait quelque chose d'un peu moins commun, donc on a pensé à Léane.
Le choix s'est fait à deux, qui a apporté les premières idées ?
C'est toujours moi qui décide.
Non, madame, on était dans la voiture,
ouais.
Et elle me dit, j'ai trouvé un prénom. Elle m'a dit, c'est Léane. Puis je lui ai dit, ça vient d'où ? Elle me dit, c'est breton, je n'ai pas cru.
En fait, comme je suis bretonne, je lui ai dit, je me suis dit, ça va mieux passer s'il n'aime pas trop.
Il s'est passé tout de suite.
Bonjour. Alors, on m'a dit que dans cette chambre, il y avait des jumeaux.
Il y a les plus belles jumelles du monde. Nine et Talia.
Comment vous les avez choisis, ces prénoms ?
Mon mari est catalan, donc... Nin, c'est Nina, bébé, bambino en catalan. Et Talia, comme je suis d'origine arabe, ça veut dire lumière du paradis.
Comment s'est faite la négociation? Vous vous êtes tout de suite dit, comme c'est des jumeaux, on peut choisir un prénom chacun?
Il fallait trouver des prénoms qui marchent en Égypte, en France, pas trop arabe, pas trop français non plus. Donc on a essayé de faire le juste milieu. S'appeler à certains copains, des fois ça plaît pas du tout. Et donc tout dernièrement, les derniers 15 jours, on a décidé de garder ces deux prénoms secrets pour prendre une décision ferme. Et puis voilà, et apparemment c'est le plus beau prénom de toute la planète.
Au moins, bien sûr. À l'hôpital Robert Debré, donc Axel Villard pour ce reportage. Et on remercie donc Martine Carlos qui a permis de faire ce tour, cette tournée comme tous les jours au sein de la maternité. Baptiste Coulmont, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre.
On a des choses assez classiques, le prénom lié à l'ancrage familial ou le prénom pour... uniciser l'enfant dans la famille. Et puis le dernier exemple, c'est montrer bien qu'il y avait certaines identités aujourd'hui qui étaient construites sur un mode transnational où vous avez des personnes d'origine catalane, égyptienne, qui cherchent à trouver un prénom qui soit utilisable dans différents pays. Voilà. Parce qu'on ne sait pas...
Pas trop égyptien, pas trop français.
Non, mais du coup, il est utilisable un peu partout dans l'espace européen, méditerranéen. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de lettre imprononçable. Et ça, c'est probablement lié aux 30, peut-être aux 30 dernières années, au fait qu'une partie des personnes ont des identités transnationales comme ça, avec des pieds dans différents pays, et il faut trouver des prénoms adaptés à ces nouvelles identités.
Donc choisir un prénom, ça signifie tout ça, pour les parents. Un prénom qui peut s'élaborer dès la grossesse, et qui permet aussi de créer le premier lien
avec
l'enfant.
Oui, et puis dès la grossesse et dès les premières échographies quand on connaît le sexe, parce que le prénom est un marqueur du sexe. Là, on n'a eu aucun cas de prénom dont on pouvait se dire est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, on le sait. Et donc le lien, la vie sociale de l'enfant à venir commence quand on le nomme, et on le nomme parfois bien longtemps avant la naissance.
Alors Dominique, justement, nous écrit de Marly Leroy. Je souhaite vous dire que mon prénom Dominique, prénom mixte, a été pendant 50 ans un problème compte tenu de mon histoire personnelle. J'aurais aimé un prénom très féminin pour revendiquer ma féminité, mon sexe et trouver ma place dans ma famille, voire exister. Maintenant, je l'ai accepté. J'ai même compris qu'il me correspond en fin de compte, ayant en moi une très forte dualité féminin-masculin. C'est presque un psychanalyste qu'il faudrait livrer ce message. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ces prénoms mixtes, ou qu'on appelle aussi parfois des prénoms épicènes, ne nomment qu'une petite partie de la population, sauf dans les années 50, en effet, avec le succès de Dominique ou d'autres comme Claude. Donc, ils ne nomment qu'une toute petite partie de la population, mais ils sont, en France, en tout cas, de plus en plus nombreux, parce que tous les prénoms qui sont créés aujourd'hui, comme Eden, Médine, Thaïs, une partie des parents, ou Yaël, une partie des parents vont penser que c'est « Ah non, ça c'est masculin », et d'autres vont dire « Mais non, c'est un prénom de fille, il y a un A dedans.
» L'aspect phonique du prénom compte énormément. Vous parlez des moqueries à l'école. Le choix est vraiment très important là aussi, parce qu'après, on traîne ce prénom pendant un long moment, avant de pouvoir en changer.
Avant de pouvoir en changer éventuellement, ou de prendre le second ou le troisième prénom.
Catherine nous dit ceci: dans l'état civil de ma ville lundi dernier, un Kirikou. Quel marqueur social, dit Catherine. Nous, profs, avons une idée de la catégorie socio-professionnelle des parents par les prénoms, à quelques exceptions près, que de John, Kimberley, Marvin, Madison, dont les parents ne réalisent pas qu'ils les marquent quasi au fer rouge. Et tous ces prénoms plus classiques, orthographiés pour se rendre original. Quelle calamité, dit Catherine.
Et peut-être professeur de lettres, elle aime bien l'orthographe. Les prénoms, ça, en effet, indiquent l'origine social, géographique des parents, et on peut souvent se tromper et on peut assez souvent avoir raison. Ce que cette personne repère de par sa profession, c'est le fait que les espaces scolaires sont en France assez fortement ségrégés, et qu'il y a de très fortes chances qu'un quelqu'un qui s'appelle Brandon soit dans la même classe que quelqu'un qui s'appelle Kimberley, etc., alors que quelqu'un qui s'appelle Clémence soit avec des personnes qui ont d'autres prénoms. Ça, on peut le voir statistiquement de manière assez clair.
Oui. Alors, la mode des prénoms, depuis 89, je crois, est publiée la Code des prénoms. C'est d'ailleurs un énorme succès de librairie, avec de nouvelles données quasiment chaque année.
Voilà. Ce livre, c'est vraiment un ouvrage sociologique à part, donc qui a été mis en place par Bénard et Desplanques, deux sociologues, et repris par la fille de Philippe Bénard, Joséphine Bénard, qui a une formation de sociologue, et qui propose cet ouvrage d'aide au choix des prénoms. prénom avec une très bonne introduction vulgarisatrice de diffusion de la sociologie.
Oui, puisqu'il a vraiment trouvé son public d'ouvrage sociologique. Mm-hmm. Il est devenu un guide, hein, pour oui. le coup. On entendait cette maman oui. tout à l'heure au sein de la maternité qui visiblement avait compilé aussi ses guides pour savoir ce qui se faisait. Le stock de prénoms, est-ce qu'il augmente considérablement? Est-ce qu'il se renouvelle beaucoup du côté des garçons comme du côté des filles?
Oui, il se renouvelle. Un prénom n'est jamais entièrement abandonné. Le cas d'Adolphe est un des seuls. Il y a encore des filles qui ont des prénoms qui sont en décalage par rapport à la mode. Donc le stock de prénoms augmente. Et depuis la dérégulation, la libéralisation du choix, il n'y a plus de frein à l'invention des parents.
Oui. Alors vous parliez du cycle temporel tout à l'heure pour des prénoms qui revenaient à peu près tous les 100 ans. Vous citez le cas du prénom Michel, qui évidemment a été très utilisé. Alors quel est son cycle à ce fameux Michel?
Alors je l'avais pris comme exemple parce qu'il a un cycle, c'est un prénom qui est au son sommet dans les années 40 et qui concerne une partie des naissances, on va dire plus de 2% des naissances pendant 40 ans, oui. alors que des prénoms qui connaissent un grand succès dans les années 90, comme le prénom Kevin, n'ont ce succès que pendant une plage de temps très courte.
Oui.
Ce qui fait que un prénom à la mode aujourd'hui est beaucoup moins à la mode qu'un prénom qui était à la mode dans les années 40.
Mmh.
Aujourd'hui, le prénom le plus à la mode ne nommera pas plus de 1,5 ou 2% des naissances. Alors que dans les années 40, ils pouvaient nommer jusqu'à 7 ou 8% des naissances.
Ouais.
Donc les modes sont beaucoup plus variés. Il reste des prénoms à la mode, c'est beaucoup plus court dans le temps, mais c'est beaucoup moins important. Les engouements ne touchent plus une grande partie de la population.
Alors comme le disait cette auditrice professeure tout à l'heure, certains prénoms permettent de dire à peu près de quel milieu social vient l'enfant. Vous expliquez aussi que les catégories sociales supérieures ont souvent proposé, innové avec des prénoms qui ont été repris ensuite par des catégories sociales inférieures.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il y a des innovations qui viennent de ce qu'on appelle en sociologie les classes populaires, les employés, les ouvriers, qui n'ont jamais été donnés auparavant dans les classes supérieures et qui ne sont jamais reprises par d'autres milieux après. Et à ces créations qui viennent des classes populaires se retrouvent confrontés des jugements de personnes qui disent mais ce sont des prénoms affreux, alors qu'ils ne le disent pas sur leur propre prénom.
Oui. Les identités régionales, là aussi, vous l'abordez, on peut prendre l'exemple des Bretons.
Les Bretons,
il y a le parcours du prénom Loïc, par exemple, qui a vraiment connu son bastion en Bretagne, et puis ensuite qui s'est répandu jusqu'aujourd'hui quasiment.
Et jusqu'en Suisse, il a été un des 20 prénoms les plus donnés en Suisse dans les années 2000. Donc il vient de Quimper et il se retrouve à Genève en 50 ans.
Ouais. Et sur les combats régionalistes, là aussi,
pour les prénoms bretons, on le remarque assez fort avec une forte augmentation des prénoms dans les années 70 et un accord de l'État. On voit les instructions générales de l'État civil confiées données aux officiers d'État civil qui disent bon, pour certains prénoms régionalistes, il faut accepter leurs revendications. On le voit moins pour les prénoms basques aujourd'hui, qui concernent une micro-région.
Hélène, qui est en Bretagne justement, puisqu'elle nous écrit de Nantes, je note une tendance aux prénoms très courts actuellement, et je me demande s'il n'y a pas une forme d'assimilation entre le surnom et le prénom.
Il y a une diminution du nombre de lettres moyennes dans les prénoms depuis une quarantaine d'années, et c'est beaucoup plus fort au niveau des prénoms les plus donnés. Les prénoms les plus donnés sont plus courts que les prénoms un peu moins donnés. Est-ce que c'est une manière d'utiliser un prénom peut-être moins formel que des prénoms longs? Et puisque de toute façon, quand les personnes avaient des prénoms longs, on avait tendance à utiliser un surnom. Mais son prénom à elle, c'est Isabelle, qui est un diminutif probablement d'Elisabeth ou d'un prénom plus long.
Oui.
Donc il y a beaucoup de prénoms qui ont pu être à un moment des... qui sont peut-être des surnoms de prénoms qui étaient plus longs donnés quelques siècles auparavant.
Brigitte nous envoie ce message de Chambéry. Il y a 40 ans, nous avons voulu appeler notre fille Ségolène et nous nous sommes heurtés à l'officier d'état civil de Toulouse et nous avons dû aller à l'évêché copier en latin la vie de Sainte Ségolène. Vous connaissiez cette histoire ?
Oh non, 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 mais des histoires comme ça, des refus de prénoms dans, il y a 40 ou 50 ans, ça devait être assez, assez fréquent, parce qu'à ce moment-là, il y avait un contrôle par l'officier d'état civil, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Combien de personnes essayent de changer de prénom chaque année en France ?
Environ 3000.
La démarche est simple à mener ?
Il faut faire appel à un avocat, et ce n'est pas une grosse question juridique, n'importe quel avocat est capable de faire cette requête.
Ouais. Vous parlez des animaux domestiques aussi dans votre ouvrage de sociologie des prénoms. Pour quelle raison ? Parce qu'on peut faire un parallèle entre...
C'était pour montrer la variété des usages et montrer que des non-humains pouvaient avoir des choses qui ressemblaient à des prénoms. Quand vous avez un carnet de vétérinaire, vous avez le nom de famille du propriétaire et le nom du chien. Vous avez le diptyque nom-prénom. Et on remarque aussi... dans certaines études l'ont fait, alors avec des données statistiques peut-être pas très fiables, le fait que les terminaisons masculines et féminines des hommes se retrouvent dans les terminaisons des prénoms masculines et féminines des animaux de compagnie.
Oui.
Et ça serait très intéressant de pouvoir étudier ça plus longuement.
Donc les chiens et les chats, un tiers des chiens je crois, un quart des chats portent des prénoms humains.
De la part d'une enquête qui a été réalisée au début des années 90, ça probablement changé aujourd'hui.
Très bien. Anne, dans la Drôme, je travaille avec des photographes de presse et depuis longtemps j'ai remarqué qu'ils s'appellent fréquemment Eric. L'explication est probablement plus psychologique que sociologique, non ?
C'est pas
votre domaine, ça. Vous n'avez pas étudié
mais
forcément.
Mais c'est peut-être véridique.
Voilà, Bénédicte, je m'appelle Bénédicte, prénom bourgeois, alors que je suis né dans un milieu ouvrier. Ah oui, forcément, oui. Il y a quand même des exceptions.
Ah oui, il y a énormément d'exceptions. Heureusement, on n'est pas dans une société de caste et il n'y a pas de contrôleur.
Mais ça confirme peut-être ce que vous nous disiez de l'appropriation aussi d'un milieu ouvrier, d'un prénom qui auparavant...
En 10 ans ou en 15 ans, un prénom peut être passé du monde, on va dire, de bourgeois parisien au monde des propriétaires terriens de la Beauce et puis ensuite aux ouvriers du Nord.
Oui. Beaucoup d'auditeurs dans leur courriel font mention justement de l'aspect psychologique lié à un prénom. Est-ce que ça, c'est une association que vous pourriez entamer, vous en tant que sociologue, voir un petit peu du côté de la psychologie, ce qu'on dit
Il y a une psychologie des prénoms, un ouvrage intéressant qui avait été écrit par Nicolas Guéguen, qui est professeur dans l'Ouest. J'ai des difficultés à entrer en discussion avec les outils de la psychologie. Parce que c'est... Le fond de ma pensée est que le prénom a peu d'influence dans la vie quotidienne, mais les personnes ressentent leur prénom comme porteur de leur identité. Il faudrait avoir de longues discussions, je pense
que ça
avec
mérite,
des...
Ça mériterait discussion, oui.
Pour les questions de discrimination, de CV anonyme, on peut voir... des influences. Mais est-ce qu'un Eric ou un Jean-Michel sera plus dragueur qu'un Jean-François ? J'en ai aucune idée.
Sociologie des prénoms, ce livre paraît aux éditions de la Découverte dans la collection Repère. Merci Baptiste Coulmont d'être venu nous en parler dans la Tête au Carré. À bientôt.
Écoutez-moi, vous les ringards écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi, je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des boulevards. Vos beaux discours, y en a plein d'eau, y a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse, elle est belle, et moi j'adore la tour Eiffel. Y'a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes des grands soirs. La pollution n'est pas dans l'air, elle est sur vos visages blêmes. Moi j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas à l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume c'est mon paysage. Le bitume c'est mon paysage.
Amoureux de Paname, Renaud.
La tête.
Du point de vue cardiovasculaire, le malade est parfait. Du point de vue cérébral, il nous donne des soucis.
Aucune importance, ça ne nous gêne pas du tout.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
Luc Biec, vous nous avez rejoint pour votre chronique de santé solidaire et vous nous parlez aujourd'hui des ruptures de stock des médicaments et ça se passe en France.
Oui Mathieu, saviez-vous que dans notre beau pays, des personnes vivant avec une maladie grave ne trouvent pas toujours leur traitement en pharmacie ? Selon une enquête réalisée par l'Union des syndicats de pharmacie entre le 7 février et le 11 mars, les trois quarts des pharmaciens sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement au moins une fois par semaine. Et 9 pharmaciens sur 10 disent que ça empire. Ce phénomène a été mis en avant par un collectif d'associations de lutte contre le sida, le TRT5, qui a lancé l'alerte et ces problèmes mettent en danger la santé des gens. D'un côté, les pouvoirs publics et les médecins essaient de dire combien la prise des médicaments anti-VIH doit être ultra régulière pour garder une charge virale indétectable, et de l'autre, le système de distribution fonctionne mal 30 ans après le début de l'épidémie.
Alors comment est-ce qu'on a pu observer ce phénomène ?
Le TRT5 a diffusé un questionnaire, 150 cas de rupture d'approvisionnement ont été examinés à la loupe, mais le nombre est bien plus nombreux car tous les gens concernés n'ont pas pu y répondre. Ce problème concerne de multiples pathologies et ces dysfonctionnements s'observent à Paris et dans toute la France.
Alors comment on distribue les médicaments dans notre pays ?
A priori c'est assez simple, le laboratoire fabrique, le grossiste répartiteur amène les boîtes dans la pharmacie de ville. Les pharmacies n'ont pas d'obligation de stock, il faut le savoir, ça fonctionne en flux tendu et il est difficile de pointer quiconque du doigt, mais une partie du problème viendrait de ces fameux grossistes répartiteurs. Alors ils ont une obligation de service public qu'ils remplissent mal et ils accusent les labos de provoquer des ruptures de stock, ce qui n'est pas toujours vrai. Ces grossistes ont l'obligation d'avoir seulement 15 jours de stock pour 90% des médicaments vendus et en théorie, ils doivent pouvoir livrer n'importe quel pharmacien qu'ils demandent dans la journée.
Donc en théorie, parce qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Hein.
Non, ce n'est pas le cas. Plus de 30% des séropositifs qui ont répondu au questionnaire du TRT5 ont eu des ruptures de traitement qui ont parfois duré une semaine, ce qui est très risqué pour eux. Et si les grossistes n'ont pas toujours ces molécules en stock, il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'ils sont soumis à des quotas par les labos. Et la seconde, c'est qu'ils ont le droit, c'est légal, de vendre 10% de leur stock dans des pays où les prix ne sont pas réglementés. Par exemple, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Ils ne se privent pas de le faire pour gagner encore plus d'argent, évidemment.
Est-ce qu'il y a des pistes pour régler ce problème, Luc Biec ?
Un conseil pratique, d'abord, on va conseiller aux gens de s'y prendre un peu à l'avance et de ne pas renouveler son ordonnance le samedi soir, juste avant la fermeture de la pharmacie. Quand une pharmacie ne trouve pas le médicament rapidement, elle peut s'adresser au laboratoire pharmaceutique qui dépanne au cas par cas et dans les 48 heures. On peut aussi leur conseiller d'aller dans les pharmacies hospitalières qui disposent d'une quinzaine de jours de stock. Heureusement que ce service public existe. Pour le VIH, les laboratoires devraient vraiment anticiper les nouvelles recommandations qui conseillent de traiter plus tôt. En général, on pourrait aussi penser qu'il faudrait éviter le flux tendu. Et se rappeler qu'on ne vend pas des médicaments comme des boîtes de petits pois. Les besoins évoluent selon les pays, selon les dépistages. Et on ne peut pas tout prévoir de façon mathématique sans garder une marge de sécurité.
Et que font les pouvoirs publics ?
Ils collectent des infos sur un phénomène qui dure depuis des années. Mais Xavier Bertrand a confirmé que la Direction Générale de la Santé, l'AFSAPS, plancher sur le sujet pour des mesures avant fin 2011. Toutefois, c'est très urgent. Il y a le cas des médicaments anti-rejet qui sont donnés à des personnes qui ont subi une greffe et toutes les personnes qui sont soignées pour une maladie chronique qui ont besoin d'un traitement bien distribué parce que c'est vital. L'État doit vraiment veiller à ça très rapidement.
Incroyable. Merci beaucoup Luc Biec. À la semaine prochaine.
Merci Mathieu.